Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui n'est pas coutume, je reçois deux jeunes femmes, Julie Bertin et Jade Herbulot. Bonjour.
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 Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Julie Bertin et Jade Herbulot, vous êtes metteuses en scène et fondatrices du Birgit Ensemble. C'est quoi le Birgit Ensemble ?
Le Birgit Ensemble, c'est une compagnie qui est née en 2014 et qui s'appelle le Birgit Ensemble du nom d'un personnage dans notre premier spectacle qui s'appelait Birgit et Ensemble pour la référence orchestrale.
D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter, Julie ?
Non, tout a été très bien dit.
Alors, vous avez choisi toutes les deux comme journée particulière le 1er novembre 1954.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
C'était une archive extraite des actualités françaises du 1er novembre 1954. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Julie Bertin et Jade Herbulot ? Que s'est-il passé le 1er novembre 1954 ?
Eh bien, comme le disait l'archive, il y a eu une première série d'attentats sur le territoire algérien. Attentats revendiqués donc par les combattants du FLN, donc le Front de Libération Nationale, parti indépendantiste. Et c'est finalement ce qui a marqué le début officiellement de la guerre d'indépendance, que nous appelons communément en France « guerre d'Algérie », que les Algériens, eux, appellent « guerre d'indépendance » ou « guerre de libération nationale ».
C'était la première fois qu'on assistait à des attentats qui ciblaient la communauté française d'Algérie.
Oui, et aussi de façon très organisée, puisque ces 30 attentats ont eu lieu sur différentes parties du territoire dans la même journée, donc ce qui suppose aussi une logistique très complexe. Donc oui, c'était un acte de guerre.
Donc c'était donc le 1er novembre 1954. En 1954, la France, c'est l'Algérie, hein, selon les mots de François Mitterrand, qui était le premier ministre du cabinet Mendès France. L'Algérie, c'était 3 départements français et 1,1 million de Français d'Algérie qui y vivaient.
1 million d'Européens, en tout cas d'Algérie, oui, tout à fait.
Pourquoi vous avez choisi cette date pour journée particulière du 1er novembre 1954, Julie Bertin et Jade Herbulot ? Pourquoi cette journée-là ?
Parce qu'il se trouve que il y a quelques mois, nous avons fait un voyage pour préparer l'écriture du spectacle « Les oubliés Alger Paris oui. », un voyage à Alger, et hasard de calendrier, on y était le 1er novembre 2018.
Alors qu'est-ce que vous avez vu en arrivant le 1er novembre 2018 à Alger ?
Ce qui a commencé par nous frapper, c'est qu'on a eu l'impression d'arriver à Marseille. Donc on est arrivé dans le centre d'Alger, là où on avait loué un appartement, et on y a vu des bâtiments haussmanniens,
ouais.
Des façades blanches, donc les volets sont simplement plus bleus qu'à Marseille, mais il y avait la mer, les palmiers, et surtout une architecture tout à fait familière.
Mais vous ne vous attendiez pas à ça ?
Eh bien, étrangement non, même si on avait pu voir des images d'archives, des photographies, mais entre la photo et la réalité, évidemment, il y a un monde. Et de se rendre compte que, en effet, on était dans une géographie, une organisation de l'espace européenne, en Afrique du Nord, ça a été quelque chose d'assez étrange. Nous, on s'attendait au contraire à rencontrer de l'étrangeté, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit.
Voici la vieille rade aux reflets mouvants et l'amirauté si riche de merveilleux souvenirs. Mais Alger, cette splendide ville moderne, se réduisait à peu près à ceci en 1830. Des maisons vétustes, comprimées comme des grains de grenade. L'ombre de Fromentin peut revenir dans l'un de ses cafés. La casbah est toujours celle qu'il a décrite. Un mélange affolant de types, de couleurs, d'odeurs et de bruits. Un fantastique lacis de ruelles tortes, d'escaliers. Nous imaginons la surprise d'un soldat de 1830 à découvrir l'Alger d'alors. C'est encore à plus d'un siècle de distance, celle du touriste qui, quelques heures après avoir quitté Paris, se hâte vers les hauts quartiers de la ville blanche. Mais Alger est maintenant autre chose que l'ancienne Casbah. Avec quelle vigueur la France a su ouvrir ses fenêtres. La ville nouvelle a crevé les vieilles murailles de Kheir ed-Din, s'est élancée par paliers vers les hauteurs, élargissant ses artères, se musclant de somptueux monuments, d'immeubles trop hauts peut-être et trop parisiens.
La France, c'est l'Algérie, hein, c'est vraiment ça. Et ça, c'est une archive de 1948. Je vous vois hocher de la tête en écoutant ça, Julie Bertin et Jade Herbulot. Pourquoi vous regardez, vous hochez de la tête?
Parce que c'est, il faut l'entendre pour le croire, la façon dont cette époque de l'Empire français, de l'Empire colonial français, produit un discours de domination sur les colonisés et s'estime absolument supérieur, quoi qu'il arrive. Le présupposé, c'est que la civilisation européenne est supérieure à la civilisation orientale, moyenne orientale, musulmane, et que donc, nécessairement, l'architecture haussmannienne parisienne est bien supérieure à l'architecture de la Casbah, qui pourtant, justement, aujourd'hui, est en effet en train de s'effondrer, et que les techniques de construction et de bâtiment n'ont pas été transmises de génération en génération et qu'aujourd'hui, on se demande comment réhabiliter la Casbah, avec qui, et qu'au contraire, ce qui prouve que les techniques de construction sont complexes, existent, au même titre qu'existent les techniques de construction haussmannienne.
Quand vous arrivez en Algérie le 1er novembre 2018, vous êtes pleine de vos lectures, pleine du visionnage de vos films. Vous avez comme ça toutes les références. Vous travaillez sur la guerre d'Algérie. Votre prochain spectacle, qui a commencé là, au Théâtre du Vieux Colombier, parle de la guerre d'Algérie. Vous imaginiez une ville qui avait passé l'éponge sur la colonisation. Vous imaginiez...
On voulait justement avoir une expérience sensible et pas uniquement intellectuelle de cette histoire et du pays, rencontrer évidemment ses habitants et justement pour déjouer tout un tas de préjugés que nous avions encore malgré justement toutes nos lectures et nos recherches. Donc c'est vrai qu'on a été surprise de cette chose-là, chose qui s'explique tout naturellement parce que évidemment ce sont les Français qui ont construit beaucoup la ville à partir de la fin du 19e siècle. Et puis, évidemment, on a découvert une ville qui était séparée comme portant la marque justement de cette schizophrénie, puisque il y a l'ancien quartier européen et il y a évidemment le quartier historique, le quartier de la Casbah. Donc, on a circulé comme ça dans l'ensemble de la ville, on y a été aussi guidé, et puis on était sur place donc pour le 1er novembre, où nous, donc notre appartement donnait sur la baie d'Alger, là d'où partaient les bateaux en 62, notamment ceux qui ont quitté le port d'Alger pour conduire les exilés, les Français d'Algérie qui devaient gagner la métropole. Et c'est de cette baie qu'ont été tirés les coups de canon pour fêter le 1er novembre. Donc, et on était là et on a
parce
vu
que c'est
l'ensemble
une fête
des
nationale
habitants.
Aujourd'hui,
c'est une fête nationale.
Le 1er novembre est une fête nationale
en
Algérie.
C'est un rendez-vous que personne ne veut manquer. Donc il y avait des feux d'artifice, des coups de canon et l'ensemble des habitants qui se massaient sous le balcon de l'appartement où nous étions.
Alors en 1954, Georges Brassens faisait son premier Olympia et Édith Piaf chantait sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Merci Julie Bertin et Jade Herbulot pour ce petit spectacle pendant ce très beau disque. Vous n'êtes pas seulement des metteuses en scène, vous êtes aussi des comédiennes.
Voilà.
Ah, vous venez de me faire un spectacle mimé sur les paroles d'Edith Piaf.
Tout à fait.
Assez réussi, j'avoue, assez réussi.
Je vous remercie.
Non, de rien. Alors, on revient à notre journée particulière. C'est le 1er novembre 1954. Et ce jour-là, pour la première fois, la communauté française d'Algérie était ciblée par des attentats du FLN. 4 militaires français, 4 pieds noirs et 2 Algériens y ont trouvé la mort. Alors, il faut que les masques tombent, titre le Figaro, précisant que 30 attentats ont été commis simultanément dans les régions de Constantine, Alger et Oran. Le journal L'Écho d'Alger, lui, rassure ses lecteurs en affirmant que ce sanglant mouvement insurrectionnel a été écrasé en quelques heures par des forces de l'ordre qui ont réagi avec rapidité et efficacité. En vérité, le 1er novembre 1954, dans la presse, personne ne semble prendre la mesure de la gravité de ces attentats, mis à part François Mauriac, qui, dans son bloc-notes publié dans l'Express, alerte ses lecteurs. Il intitule son papier « La guerre d'Algérie commence ». C'est le seul à pressentir le drame qui s'annonce.
2 novembre 1954. La guerre d'Algérie commence. Je ne croyais pas que le pire fût si proche. Ceux qui, en Algérie, sont passés à l'attaque ne pouvaient douter de ce que serait la réponse du gouvernement français, puisqu'il ne dépend plus de personne, aujourd'hui, que l'Algérie ne fasse légalement partie du territoire de la République. Qu'on n'attende pas de moi que je reproche à des hommes, fussent-ils ministres, d'avoir fait ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire, sans trahir les devoirs de leur charge. Mais que j'en sois accablé, mes amis le savent. La responsabilité des Fellaga dans l'immédiat n'atténue en rien celle qui, depuis 120 ans, pèse sur nous d'un poids accru de génération en génération. L'horreur de ce qui va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive concertée contre les bas salaires, le chômage, l'ignorance, la misère, et par les réformes de structure qu'appelle le peuple algérien. Et coûte que coûte, il faut empêcher la police de torturer.
Alors c'était un extrait justement du bloc-notes de François Mauriac, lu par Henri Virlogeux. Vous connaissiez l'existence de ce texte parce qu'il est fou, oui, c'est le premier à parler de guerre. On n'en parlera pas pendant des décennies, hein. On dira toujours les événements. Et c'est le premier à parler de torture. Ça vous étonne ?
À vrai dire oui, 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 parce qu'on n'était pas tombé sur cet article. Et c'est fou de voir à quel point il comprend exactement ce qui est en train de se jouer à ce moment-là en Algérie. Et que non, ce n'est pas une insurrection qui va pouvoir être étouffée par les forces de l'ordre en quelques heures. Le mal vient de plus loin et d'une volonté des Algériens d'obtenir les mêmes droits que les Français d'Algérie.
Mauriac est le 1er novembre 54 à avoir compris que c'était une guerre qui allait commencer. Alors vous, le 1er novembre, Julie Bertin et Jade Herbulot, vous arrivez à Alger, donc 1er novembre 2018, pour y passer une semaine. Et pour vous promener dans Alger, comme ça, pendant une semaine, vous allez où ? Qu'est-ce que vous décidez de faire ?
Alors, on se laisse d'abord guider par les personnes que l'on rencontre sur place. On fait la connaissance d'un certain Yacine qui, justement, a, comme beaucoup de jeunes Algériens, deux travail et qui donc est guide, puisque le tourisme commence tout doucement à se développer à Alger et qui se propose donc de nous faire circuler dans la Casbah. Et c'est là, justement, où l'on s'aperçoit que les traces de la colonisation n'ont pas été effacées. On voit à un moment sur le fronton d'un vieil immeuble, tribunal de grande instance, donc qui commence à être effacé par le temps, mais qui n'a pas été effacé en tout cas par la main des Algérois. Donc certains noms de rues ont changé, évidemment, ont été rebaptisés du nom des grands combattants du FLN, mais on est frappé par cette chose-là, de voir qu'il y a un rapport à l'histoire, au passé, qui est tout autre que le rapport que l'on entretient, nous, en France.
Alors, c'est-à-dire qu'on voit encore des choses.
On voit encore
des empreintes.
Voilà.
Des traces.
Il y a quelque chose qui est assumé, alors qui est évidemment plus facile à assumer du côté des Algériens, puisque ça a été une guerre victorieuse. Mais tout de même, en tout cas, ce rapport au passé nous interpelle. Et puis, donc, on circule dans la Casbah. On constate qu'effectivement, elle est en train de s'effondrer. On circule aussi, donc, dans le quartier du centre d'Alger, où il y a, justement, c'est ce quartier anciennement européen, au boulevard Didouche Mourad, qui était anciennement la rue Michelet, où notamment il y a eu la semaine des barricades en janvier 1960. Donc c'est une rue, un grand boulevard très commerçant.
Qui traverse toute la ville du nord au sud, quoi, qui va jusqu'à la place du Forum, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Et là, vous allez évidemment à la place du Forum.
Et on y va, exactement, parce que c'est notamment là où s'est tenu le fameux discours du général de Gaulle en juin 58, où il a prononcé cette fameuse phrase « Je vous ai compris » que personne n'a réellement comprise.
Je vous ai compris ! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà.
Absolument fou ce discours du général de Gaulle le 4 juin 1958 sur la place du Forum, où vous vous retrouvez donc vous en 2018. Il annonce quoi ce discours ? Il annonce la fin de la 4e République, l'avènement de la 5e République. Et si je me trompe, c'est ça aussi qui vous intéresse, Julie et Jade, dans votre spectacle. C'est ce moment-là de l'histoire.
Oui, tout à fait. Notre angle d'approche était le lien entre l'élaboration de la constitution de la 5e République et son contexte immédiat, qui est la guerre d'Algérie, qui sont deux choses qui, pour nous, étaient jusque-là absolument dissociées.
Ouais, pour moi aussi, d'ailleurs. C'est en travaillant avec vous, en préparant cette émission, que j'ai compris que c'est la guerre d'Algérie qui a propulsé la France dans cette 5e République.
Et qui a propulsé le retour du général de Gaulle au pouvoir.
Bien sûr.
Puisqu'effectivement, il est appelé à la rescousse, si je puis dire, par René Coty.
Après les manifestations du 13 mai 58.
Tout à fait.
Des énormes manifestations sur cette place du Forum,
tout
justement,
à
Alger.
Le général Massu, qui est justement en poste à Alger à ce moment-là, organise des manifestations de soutien au général de Gaulle, puisque l'armée française et le gouvernement français également considèrent que la seule personne qui puisse sortir la France de cette crise algérienne, eh bien, c'est le général de Gaulle.
Oui, parce qu'il y avait eu une mise en place d'un comité de salut public présidé justement par le général Massu et qu'à Paris, on craignait un coup d'État.
Voilà, tout à fait.
Donc, pour éviter ce coup d'État, on appelle le retour...
Celui qui semble être le seul en capacité de sauver la France, qui a évidemment une légitimité historique incontestable, de Gaulle, qui lui négocie son retour au pouvoir de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il dit « je veux bien revenir à la seule condition que je puisse constituer un comité de rédaction qui va plancher sur une nouvelle constitution ».
Et alors, quand vous êtes place du Forum, sur cette ancienne place du Forum à Alger, il y a des traces de cette histoire, il reste des traces. Le balcon d'où le général de Gaulle a parlé, il reste des choses, des empreintes ou rien.
C'était assez difficile de se rendre compte parce qu'elle était en travaux. Donc il y avait beaucoup de grues. C'est-à-dire que là, il y a tout un... Enfin, de ce qu'on a compris en observant la ville, une politique de réhabilitation des bâtiments, justement sans doute pour développer le tourisme en Algérie. Et donc c'était assez étrange, il y a beaucoup de circulation aussi, il y a une conduite assez sportive à Alger, il y a beaucoup de voitures parce que ils achètent un litre d'essence pour une somme absolument dérisoire, je n'oserais même pas dire combien coûte un litre d'essence en centimes d'euros, puisqu'ils ont du pétrole évidemment dans le sol algérien, donc il y a beaucoup de circulation. Donc c'est vrai que c'était un exercice un peu difficile de se le figurer, de comparer les deux, l'image photographiée d'archives et la réalité.
Vous parliez de la Casbah d'Alger et de cette ville européenne. C'est comme si vous aviez pris conscience de la géographie de cette ville et vous avez peut-être pu comprendre en vous baladant dans Alger, Julie et Jade, comment ça avait pu être facile d'encercler cette Casbah pendant la bataille d'Alger qui a commencé en janvier 57 par le bouclage de la Casbah par la 10e division parachutiste sous le commandement du général Massu.
Comme toujours, les termes du problème sont primo, l'adversaire, secondo, les moyens de le détruire. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi est rusé et dangereux. C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées. Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. Je suis certain que toutes nos unités comprendront et réagiront en conséquence.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
C'est un extrait de la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo. C'est un film qui a été tout de suite interdit à sa sortie. Et justement qui évoque cette bataille d'Alger et l'encerclement de cette Casbah par les paras qui ont été appelés à la rescousse en 57. Vous aviez tout ça en tête en vous promenant. Vous aviez ces images-là, ces barbelés qu'entourent la casbah, les gens qui se cachent, et puis cet appel à la torture, d'une certaine façon, qu'on vient d'entendre. C'est ça qui, c'est avec tout ce bagage-là que vous promeniez dans Alger en novembre 2018.
Oui, évidemment, surtout que, pour la petite histoire, on a vu ce film justement à Alger, le soir, la nuit du 1er novembre.
Ah, vous l'avez vu à Alger ?
Voilà, c'est-à-dire qu'on était dans notre appartement, on visionnait le film, quand les coups de canon ont commencé à être tirés, donc on a arrêté le film et on est allé sur le balcon regarder ce qui se passait juste sous nos fenêtres. Voilà, donc là encore, c'était un pur hasard. Et donc, le lendemain, quand on a continué effectivement à se balader dans la ville, on avait évidemment ces images en tête. Et on
de torture
on, de torture, d'encerclement, de contrôle d'identité, parce que on le comprend encore très bien. C'est justement ça, un tout petit centre en fait qui est constitué de plein de ruelles étroites. Donc il est très simple de procéder à des barrages et de pouvoir faire un contrôle d'identité, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça que les membres du FLN ont commencé à faire appel à des femmes pour justement déjouer les stratégies policières et militaires des Français.
Et dites-moi, est-ce que vous aviez peur d'être mal reçu par les Algériens ? Parce que j'imagine que quand on regarde le film La bataille d'Alger en étant à Alger, on se demande comment on va être accueilli en arrivant comme Française, préparant un spectacle sur l'avènement de la Ve République et la guerre d'Algérie. Vous étiez inquiète ?
Je crois qu'on n'était pas inquiète, en tout cas qu'on n'avait pas de préjugés vis-à-vis de l'accueil qu'on recevrait. Et en revanche, on a été très surprise d'être extrêmement bien accueillis, justement. Alors que on aurait pu penser qu'il y avait une peut-être un amalgame entre les Français et ce qu'a pu ordonner le gouvernement français. Au contraire, pour eux, c'est très distinct.
Pas de haine.
Il y a pas de haine. Pour eux, ils distinguent tout à fait les choix, les décisions politiques du gouvernement, de l'État français et les Français. Et au contraire, ils nous ont témoigné de beaucoup de chaleur, de beaucoup d'affection. Ils ont pris le temps de nous accompagner dans la ville, de nous présenter des amis, d'amis, de nous inviter chez eux à nous asseoir à leur table. Enfin, vraiment.
Et vous avez pu parler politique, Julie
Je
et Jade.
On a parlé que de ça. Il est très simple pour eux de parler de cette guerre. Donc, la plupart de ceux qu'on a rencontrés ne l'avaient pas vécu directement. Ils étaient trop jeunes, mais nous rapportaient le récit de leurs propres parents. Et puis, on a aussi beaucoup parlé des traces laissées encore par cette guerre-là, par cette révolution, et des traces de la décennie noire. Donc, cette guerre
des
civile
années
des années 90. Mais voilà, c'était frappant de voir à quel point ils sont, il y a une conscience politique extrêmement développée.
Et à l'opposé de ce qui se passe en France, du processus d'effacement qui a été à l'œuvre en France pendant des dizaines d'années, c'est ça surtout ce que vous êtes en train de dire.
C'est vrai que là, quand on s'est, nous, on le disait tout à l'heure, déjà on a un moment quand on a planché sur la création de la Ve République, c'est là où on s'est dit mais attends, en fait, la Ve République est née en pleine guerre. Donc déjà cette articulation là, on ne l'avait jamais faite. Donc c'était quand même le symptôme d'une certaine forme de refoulement.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que quand bien même il y a énormément de livres, de films, de documentaires produits sur la guerre d'Algérie, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on écrit, on a beau dire, il y a quelque chose qui ne se transmet jamais à l'oral. Donc c'est finalement cette contradiction-là qu'on a voulu creuser, interroger dans le spectacle.
Alors pour information, guerre d'Algérie qui a duré presque 8 ans, qui a provoqué la mort de 400 000 Algériens, de 30 000 appelés Français, sans parler des milliers de blessés et des dizaines de milliers de harkis qui ont été massacrés.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Julie et Jade, vous avez reconnu la voix de Boris Vian ?
Oui, tout à fait.
Alors, impossible de parler de la guerre d'Algérie sans parler de cette chanson hein, qui est sortie en 1954 et qui a été tout de suite interdite à cause de son caractère anti-patriotique. Elle est là, elle est présente dans votre spectacle, cette chanson ?
Pas celle-ci, non.
Pas celle-ci, non. Pas celle-ci. Oui. Une autre ?
Pas de l'époque, non. Il y a des chansons que nous ne dévoilerons pas. Des chansons françaises, mais non, pas de chansons de l'époque. C'est vrai qu'on a d'habitude dans nos spectacles, on aime beaucoup brasser toutes les références musicales de l'époque autour de laquelle on travaille. Et c'est vrai que là, ça s'est pas présenté. Enfin, en tout cas, la nécessité ne s'est pas présentée.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, Jade Herbulot et Julie Bertin, c'est que dans votre, ce que vous aimez, c'est revisiter l'histoire. Hein, dans votre collectif de théâtre, le Birgit Ensemble, vos spectacles, vous avez travaillé comme ça sur la chute du mur de Berlin, sur le siège de Sarajevo, sur la crise financière grecque. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est de reconstituer un contexte, d'aller chercher autre chose que ce qu'on veut bien nous dire de notre histoire contemporaine. C'est ça aussi.
Oui, il y a de ça et aussi, comment dire, essayer de comprendre comment ce contexte historique, politique, économique influe sur nos vies.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
voilà, et c'est cette articulation entre le politique et l'intime qui nous intéresse.
Ah, ça tombe bien, c'est ce qui m'intéresse aussi. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous avez choisi comme journée particulière le 1er novembre 1954, qui marque donc le début de la guerre d'Algérie. Et voilà une rétrospective de l'année 1954.
Une journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Un an de plus, une année qui aura eu ses beaux jours. Le jour, par exemple, où M. Coty est entré à l'Élysée courageusement, prêt à faire face à toutes les poignées de main qui l'attendaient. Le jour où l'abbé Pierre, dans un hiver exceptionnellement rigoureux, a ouvert sa campagne de justice et réveillé les consciences endormies. Ça n'a peut-être duré qu'un jour, mais c'était une bonne journée. Le jour aussi où l'on a dansé dans les salons du Kremlin et où, pour la première fois, on a eu l'impression que Moscou pouvait sourire aussi bien que menacer. Bien sûr, il y a eu à côté du pont le mauvais et le pire. Il y a eu, en plus de la série des explosions atomiques, celle de la bombe H et la menace sournoise indiquée par le supplice mystérieux des pêcheurs japonais ou celle d'un monde déréglé où l'espèce humaine engendrerait des monstres. Ajoutons à ces pensées, si peu consolantes, la menace immanente des machines de guerre de jour en jour plus sinistrement perfectionnées. Fusées à radar qui repèrent l'ennemi, missiles à tête chercheuse qui se guident elles-mêmes sur la cible. On ne sait plus bientôt où sera le salut devant ces projectiles dotés d'une monstrueuse intelligence. Tout cela au milieu des enfantillages et des pauvretés d'un monde qui voit l'élévation de l'esprit dans le développement de la pipe, qui se consacre 10 semaines par an à l'élevage des prix de beauté, qui invente le ski à roulettes et qui, retournant aux âges héroïques, fait à Bobet, vainqueur du Tour de France, le même triomphe qu'à César ou à Napoléon. Il s'est passé quand même autre chose. Il y avait aussi l'Indochine. Et c'est dans ce climat où les choses n'allaient pas sans inquiétude que l'on vit paraître, au milieu de physionomies ou célèbres, ou simplement connues, un nouveau visage. Ce visage était jeune, on y trouvait de la décision, de la volonté, l'indépendance d'esprit, un certain goût du risque et un beau mépris des méthodes surannées. Monsieur Mendès France formait son premier ministère. Et tout de suite, il était à Genève, ouvrant avec Chou En Lai une négociation éclair, apportant une solution au problème de l'Indochine et faisant au bout d'un mois la paix d'une guerre de 7 ans. Et l'année s'est écoulée. Elle a exigé des sacrifices douloureux, mais ces sacrifices ne sont pas restés inutiles. Cette année morte n'aura pas été si mauvaise.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez de très particulier, Julie Bertin et Jade Herbulot? De quoi on ne parle pas dans cette rétrospective de l'année 19?
Je ne sais pas, j'ai l'impression... Non, je ne sais pas. Julie, tu vois de quoi on ne parle pas?
Non, je ne vois pas, non. Tout est dit.
Moi, j'ai l'impression que tout est dit.
Hein, tout est dit. Pas un mot de ce qui se passe en Algérie. Oui. Pas un mot du FLN. Pas un mot de ce qui est en train de commencer.
Mais effectivement, ça ne nous étonne pas, parce que là, en tout cas en métropole, on a commencé à parler des événements d'Algérie que bien plus tard, c'est-à-dire quand justement il y avait de plus en plus d'appelés pour le contingent, et par la suite quand il y a eu aussi des attentats sur le sol métropolitain. Là, à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement une mobilisation de l'opinion publique française qui, à un moment, a dit « Bon, stop, on perd trop d'enfants, trop de maris, trop de frères dans cette guerre. » Parce qu'il faut aussi rappeler, là, dans l'archive, on parlait de l'Indochine, que la France est en guerre depuis des années. C'est-à-dire, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre d'Indochine qui a été, évidemment, un sanglant échec. Donc, à un moment, les Français n'en peuvent plus. C'est aussi des guerres qui sont coûteuses. Mais voilà, il faudra attendre plusieurs années avant que l'opinion publique se mobilise.
Et il faudra attendre 99
ouais.
pour parler de guerre d'Algérie. Alors, Julie Bertin et Jade Herbulot, vous avez tissé, hein, à partir de vos voyages, de vos lectures, de visionnages de films, des gens que vous avez rencontrés, des proches aussi qui vous ont parlé de ces événements d'Algérie, de cette guerre. Vous avez tissé un spectacle. Un spectacle qui s'appelle comment ?
Les Oubliés, Alger-Paris.
Happy birthday to you, Bruyère. Happy birthday to you.
Je croyais que vous aviez oublié.
Ça ne s'oublie pas, Bruyère, ça ne s'oublie pas.
Et puis, ça nous rappelle un peu Londres, n'est-ce pas, mon général?
Ah, Londres, la Tamise, les projecteurs, les batteries anti-aériennes, les forteresses volantes, les pales traçantes. Le blitz, quoi.
À votre santé, René.
À votre santé.
À votre santé, mon général.
Au dernier président du Conseil de la 4e République.
Et probablement au premier de la 5e.
Messieurs, vous allez un peu vite en besogne. Vous voulez me prendre par les sentiments, mais je vous rappelle que mon avenir et celui de la France dépendent de la rédaction de cette Constitution dont nous avons tant rêvé et de sa validation par le Parlement.
Mon général, nous pouvons être confiants dans l'avenir.
Des images.
Votre voyage en Algérie, il y a quelques jours, a été couronné de succès.
Des images qui resteront gravées dans les mémoires. La foule en délire. Quand je pense à ce pauvre Guy Mollet, à peine élu, accueilli sous une pluie de tomates.
Et contrairement au gouvernement précédent, l'armée vous soutient. Non, disons-le, C'est grâce à elle et aux Français d'Algérie que nous sommes réunis tous les trois ici ce soir dans ce bureau.
C'est un extrait de votre spectacle, hein, Jade Herbulot et Julie Bertin. Dites-moi, vous vous marrez bien quand même, hein ?
Oui, on se marre. On se marre parce que c'est vrai que nous, on a une passion avec Julie. Donc c'est en effet le théâtre. Première passion, le théâtre. Deuxième passion, la politique. Et que du coup, on en a fait une forme qui est du théâtre politique où on prend cette matière historique et on essaye d'être sérieux mais de garder notre humour et notre légèreté aussi vis-à-vis de ces figures. Donc d'autoriser aussi les acteurs à sortir du cadre d'un réalisme, sortir du naturalisme et à s'amuser aussi de ces figures et à porter un point de vue sur ces figures et de se dire qu'on peut parler de choses absolument sérieuses et graves avec humour.
Oui, parce que là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a un acteur qui fait le général de Gaulle.
Oui.
Et puis un autre qui fait René Brouillet, donc dont on fête l'anniversaire, qui a été pendant longtemps le directeur du cabinet
Exactement.
Présidentiel.
Oui, c'est ça.
Mais vous n'avez pas peur de vous attaquer à des figures historiques, hein, parce que dans votre spectacle, Debré est là, le général de Gaulle,
voilà.
Brouillet.
Le général Challe.
Le général Challe.
Paul de Louvrier, le gouverneur général d'Alger, au moment de la semaine des barricades.
Et ça, vous n'avez pas eu peur de vous attaquer à des figures pareilles, à des intouchables, quoi ?
Oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a absolument conscience qu'ils sont intouchables au sein de l'histoire officielle de l'État français au XXe siècle. Et non, parce que nous n'avons pas le même regard sur ces figures comme pouvaient l'avoir nos grands-parents ou nos parents.
C'est-à-dire parce que vous n'avez pas vécu, parce que vous avez une trentaine d'années, c'est ça,
oui,
les deux ?
Voilà. Nous, on est nés à la fin des années 80, donc c'est vrai que pour nous, le général de Gaulle, en effet, on a appris à l'école qu'il avait libéré la France. Ensuite, oui, on a lu des choses sur la résistance, et là, en lisant des choses sur la guerre d'Algérie et les décisions qu'il a prises, en effet, on ne peut qu'admirer aussi son pragmatisme, son intelligence politique et son intelligence stratégique, mais pour nous, ça n'est pas une figure sacrée. Mais ça n'est pas non plus une figure qu'on a envie de détruire, vous voyez, c'est plutôt une figure qu'on a envie d'analyser et de comprendre en quoi, en France, on a eu besoin de cet homme-là, à ce moment-là, pour rédiger une constitution qui est toujours la nôtre aujourd'hui.
Voilà, et alors là, votre spectacle résonne avec l'actualité quand même.
Alors, nous, on tisse, on entremêle deux récits. Donc, il y a le récit historique, où on traite des scènes qui se passent en 58, en 60 et en 61, et un récit qui est le récit d'aujourd'hui, en 2019, l'histoire d'un mariage entre une Française et un Franco-Algérien. Donc, évidemment, là, l'idée, c'est de créer des résonances, de voir justement ce qui perdure de l'histoire de la guerre d'Algérie, de la création de la Ve République, dans nos esprits, nos consciences, nos corps aujourd'hui, donc de voir quels en sont les échos.
Votre spectacle se passe pendant donc un mariage,
voilà.
Et là pendant le repas, c'est le retour du refoulé, ça sort. Il y a des choses qui sortent, des choses qui ne se sont jamais dites, qui commencent à se dire. C'est ça qu'on entend.
Exactement. C'est-à-dire littéralement de mettre en scène le retour du refoulé, un secret de famille.
Autour de la guerre d'Algérie.
C'est-à-dire que soudain apparaissent des données qui jusque-là n'existaient plus et qui peuvent remettre en question la relation de l'époux et de l'épouse. Et en parallèle, dans les scènes historiques, il y a une image, une métaphore qui se file tout au long du spectacle, qui est la métaphore de la fuite d'eau. La métaphore de « il y a quelque chose sous le tapis qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas considérer. »
Et qu'on n'arrive pas à réparer.
Et qu'on n'arrive pas à réparer.
Et c'est ça la métaphore du refoulé, c'est cette eau comme ça qui nous prendrait, nous, ici, dans une mairie en France.
Et c'est aussi la Méditerranée pour nous.
C'est la Méditerranée qui relie la France et l'Algérie. C'est quelque chose qu'on a voulu effectivement métaphoriser, c'est-à-dire raconter qu'il y a une forme de déni, d'aveuglement, aussi bien au sein de cette famille en 2019 que peut-être dans le gouvernement français en 58 et une forme d'aveuglement qui perdure encore aujourd'hui. On le voit bien, il est quand même difficile de reconnaître aujourd'hui la responsabilité du gouvernement français à cette époque.
Alors, Pendant une fête de mariage en 2019, je pense qu'on aurait pu entendre cette musique-là.
Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved.
Zoé Varié sur France Inter.
Alors, pour finir cette émission, on va revenir encore sur quelques événements qu'on n'a pas entendus dans la magnifique archive de tout à l'heure. En janvier 54, saviez-vous, Jade et Julie, que les Américains lancent leur premier sous-marin nucléaire nommé Nautilus, en hommage à Jules Verne?
D'accord, non.
Pas
non.
Du tout. Est-ce que vous savez qu'en février, on annonce la mise au point du premier vaccin contre la poliomyélite en 54?
Oui, je le savais.
Bravo, vous êtes très bonne, je sens qu'on va rigoler. Alors en 54, petit jeu, la ségrégation à l'école est déclarée inconstitutionnelle aux États-Unis. Vous avez perdu. Ah, en juin, la première centrale nucléaire est mise en service, où ça? 54? URSS. Vous me décevez, hein. Et en 54, Elvis Presley a 19 ans et il enregistre pour l'anniversaire de sa maman son premier tube.
Je suis nulle, je suis désolée, j'avoue que...
That's alright, mama. Mais en 54, il y a autre chose qui se passe en musique. Il y a le chanteur Bill Haley et son groupe Comets, je vous écoute Julie. Non? Ok, qui révèle le rock'n'roll au monde entier.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that right song? Join me home, we'll have some fun.
Vous m'avez déçu?
On est déçus de nous-mêmes,
il faut qu'on révise très sérieusement notre année 1954.
Merci Julie et Jade. En 1954, évidemment, c'est l'appel de l'abbé Pierre, ça on le sait. Mais je vais vous faire écouter une très jolie interview de l'abbé Pierre qui date de 1954.
Je veux dire d'abord à tous ceux qui écoutent que il n'est pas vrai. Et donc, il ne faut pas laisser dire que, comme on le dit hélas trop souvent dans des milieux où l'on n'a pas connu le malheur, que ceux qui sont malheureux, c'est après tout bien de leur faute. Non, que ceux qui le veulent, ils arrivent toujours à se débrouiller. Ça n'est pas vrai. Il y a des gens malheureux qui, comme on dit, ne valent pas cher. Mais il n'y en a pas plus que de gens qui ne valent pas cher dans les salons. C'est les mêmes hommes, c'est la même humanité. Et parmi ceux qui sont dans le malheur, il y en a une multitude qui le sont sans qu'il y ait faute de leur part.
Je pensais que ça vous plairait, Julie et Jeanne. Pas mal hein, de dire ça en 1954.
Ouais, il faudrait le répéter encore aujourd'hui.
Il est présent dans le spectacle ?
Il est nommé, oui.
Il est nommé, il est là dans votre spectacle. Ouais. En 1954, Albert Camus publiait ce magnifique texte, L'été.
En ce lieu, il y a près de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer dans les ruines, à me chauffer contre les pierres, à respirer, à découvrir les petites roses du printemps vite effeuillées. À midi seulement, les jours d'été, je fuyais devant la vide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. C'était l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors.
C'était la voix de Camus que vous venez d'entendre. Si vous n'avez pas lu L'été de Camus, lisez-le, c'est magnifique, absolument magnifique. Est-ce que Camus est présent dans votre spectacle?
Il est présent à l'état de trace dans le nom de famille d'un des personnages qui s'appelle Meursault, comme le personnage de L'étranger de Camus, qui d'ailleurs est arrivé...
Presque de façon inconsciente.
Ouais.
C'est parce qu'on a proposé aux comédiens...
Éric Genovese, qu'on a reçu dans cette émission.
Voilà, mais à l'ensemble des comédiens de choisir leur prénom pour les personnages qu'ils avaient à interpréter dans le récit de 2019. Et donc Éric Genovese, un jour, se présente à nous comme étant Antoine Meursault. Et on a dit, bah, formidable, très bien, tu t'appelleras donc Antoine Meursault, il est le responsable de l'intendance de la mairie dans laquelle se tient ce mariage. Et c'est après coup, on s'est dit, mais Meursault, mais c'est un personnage de Camus.
Ouais, c'est très intéressant que vous disiez ça parce que, en fait, vous travaillez d'une manière tout à fait singulière. Si vous dites que ce sont les acteurs qui ont choisi leur nom et prénom, c'est eux aussi qui ont construit l'histoire de leur personnage. C'est que l'écriture de votre spectacle s'est faite avec vos comédiens. Ils ont eu eux aussi à lire, vous leur avez donné des choses à travailler, hein, des textes, des documents, des films à voir. Et ils ont chacun de leur côté... comme Sylvia Berger, par exemple, qui a été posé des tas de questions autour d'elle sur cette guerre d'Algérie, et ils ont chacun construit leur personnage avec ce qu'ils avaient entendu. C'est comme ça que vous écrivez vos spectacles.
Oui, c'est-à-dire qu'on arrive au début des répétitions avec la structure dramaturgique, ce qui pourrait correspondre au scénario, au cinéma. Donc on a, nous, une idée assez précise des bornes chronologiques, des scènes que l'on veut traiter, notamment des séquences historiques. Donc on leur donne tout un tas de contraintes, un cadre finalement assez fort, à l'intérieur duquel on leur propose effectivement de faire eux-mêmes des recherches, puisque ils savaient également la distribution, c'est-à-dire les personnages et historiques et les personnages de 2019 qu'ils auraient à incarner. Donc par exemple Sylvia Berger, on lui avait dit qu'elle devrait interpréter un personnage de, en tout cas l'histoire d'une descendante de juifs pieds noirs. Et à partir de là, elle a commencé effectivement à mener elle-même des interviews dans ses proches ou moins proches, à récolter tout un tas d'informations. Et c'est comme ça qu'on a construit ensemble le parcours de son personnage et qu'on a finalement entremêlé ces informations-là aux informations que nous avions nous-mêmes, qui provenaient de nos propres recherches. Et puis qu'on a comme ça créé ce spectre finalement de point de vue de récit, parce que c'est bien ça qu'on voulait raconter, c'était répondre au récit unique et univoque du général de Gaulle et du récit de la Ve République, et bien faire entendre l'ensemble de ces récits et de ces points de vue.
Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, Julie Bertin et Jeanne Herbulot. Votre spectacle qui s'appelle
Les Oubliés, Alger,
Paris,
est à l'affiche du théâtre
Le Vieux Colombier
jusqu'au 10 mars.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Toutes les références des documents qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site d'une journée particulière sur franceinter.fr. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina, Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Charles Pélabon. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur le site de franceinter.fr. de suite, après les flashs, Vincent Josse, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.